Au Québec, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et le taux de survie à 5 ans atteint aujourd'hui 89 %. Quand les traitements du cancer du sein prennent fin et que le système médical passe au patient suivant, l'entourage souffle. Mais pour plusieurs femmes, s'ouvre alors une période méconnue et parfois très solitaire, l'après-cancer. C'est ce que Diane Daniel appelle l'abandon de l'après dans son livre « L'après-cancer du sein, ce que personne ne dit après le rose ». Wow! Diane Daniel est également père aidante à la Ligue Rose de la Fondation du cancer du sein du Québec. Bonjour, Diane Daniel.
Oui, bonjour. Oui. Merci de me recevoir.
Ben, c'est un livre vraiment, intéressant. Non, c'est exceptionnel pour moi. D'abord, je suis un homme. Alors, le cancer du sein, c'est pas vraiment quelque chose qui est très fréquent chez les hommes. Et surtout, ben, on connaît pas ce que les personnes qui se font traiter doivent subir et puis l'abandon ou le sentiment d'abandon après. Alors, allons-y. Vous parlez d'un grand vide au moment de l'oncologie où l'oncologue annonce que tout est fini.
Oui, le grand vide, oui. Bien, parce que pendant des mois, toute notre vie est organisée autour des traitements. Il y a toujours un prochain rendez-vous, une prochaine prise de sang, une chirurgie, un traitement. Puis on a toute une équipe qui nous suit. Donc, c'est un tourbillon. On est porté par un calendrier bien rempli, hein, puis un objectif, là, traverser la maladie.
Oui, c'est vrai parce que bon, on connaît tous, tout le monde, presque tout le monde a une personne qui a vécu ça. Puis c'est vrai que ça a l'air très réglementé, tout fonctionne, tout doit être suivi. La vie, finalement, elle est prise en charge par un système et bon, ça fonctionne comme ça. Dans le livre, vous abordez donc l'hormonothérapie et les effets secondaires, mais de quoi parle-t-on concrètement?
Bien, l'hormonothérapie, mais juste avant, je veux dire que là. Tu sais, j'accuse pas les soignants en parlant de l'abandon de l'après. Je parle plutôt d'un vide de l'accompagnement.
Oui.
Tu sais, on est soutenu le temps pour nous aider à survivre, mais quand les traitements sont terminés, ben il faut réapprendre à vivre, il faut se reconstruire. Puis c'est cette étape-là, on la traverse toute seule.
Oui, il n'y a pas de système de soutien. C'est bien. Oui, merci de le préciser. Donc, revenons à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est l'hormonothérapie, les effets secondaires, de quoi parle-t-on concrètement là?
Bien, l'hormonothérapie est prescrite aux femmes dont le cancer est hormonodépendant afin de réduire le risque de récidive. Le cancer hormonodépendant, c'est celui le plus courant là, après un certain âge. Donc, pardon. Donc, c'est un traitement qui réduit au maximum les hormones dont se nourrissait le cancer. Là. Puis l'hormonothérapie est généralement prise pendant 5 ans, parfois plus, maintenant c'est jusqu'à 10 ans. Là. C'est un tout petit comprimé par jour, mais ce petit comprimé-là, là, il y a des effets incroyables sur notre qualité de vie. Hein. Il peut y avoir des douleurs articulaires, des bouffées de chaleur intenses, des insomnies, de la fatigue, la fameuse prise de poids. Il y a aussi la sécheresse vaginale, une baisse de désir, il y a des difficultés dans l'intimité, puis tous ces changements-là, ben ça atteint l'image de soi. Vous savez, chaque matin, le miroir nous renvoie un corps qu'on ne reconnaît plus. Hein? C'est pas une question d'apparence, c'est toute l'estime de soi qui est vraiment ébranlée. Là. Puis tout ça, ces ressentis-là, ben c'est invisible. Les proches ne comprennent pas toujours pourquoi la femme ne va pas mieux alors qu'officiellement, ben, les traitements sont terminés, tout devrait bien aller. Donc, c'est les femmes ne vivent pas toutes les mêmes effets secondaires, mais celles qui en souffrent, elles ont vraiment besoin d'être entendues puis prises au sérieux.
Alors moi, ce qui m'a touché, c'est que votre ouvrage croise votre propre vécu, votre expérience de père aidante et un récit touchant, très touchant, Sophie. Vous avez fait donc une structure à trois voix. Pourquoi?
Ben, j'ai choisi de l'écrire à trois voix parce que je voulais pas seulement écrire un témoignage personnel. Je voulais que la lectrice puisse comprendre l'après-cancer du sein. Je voulais mettre des mots sur tous les ressentis. C'est que j'ai procédé, ben, il y a une voix, c'est mon propre vécu, ce que j'ai traversé, puis ce que j'aurais aimé savoir aussi.
Je vous interromps. Donc, je pense que je l'ai pas précisé. Vous êtes vous-même une survivante là, du cancer du sein, c'est ça?
Oui, absolument, absolument. Ben oui, ça part de mon vécu. J'ai vécu et je vis encore l'après-cancer du sein. Moi, j'ai eu un diagnostic en mars 2020. Alors, j'ai tout traversé toute seule à cause des confinements, là, de personnes accompagnant, etc. Bon, Alors, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça toute seule, puis je suis toujours dans l'après, 6 ans après. Puis, il y a aussi mes 5 années comme père aidante à la Fondation du cancer du sein. Moi, je travaille auprès des femmes touchées par le cancer du sein, puis au fil des centaines de confidences, j'ai constaté que les mêmes réalités qui revenaient constamment, la peur, la fatigue, le sentiment de ne plus reconnaître son corps, l'estime de soi, les difficultés dans les couples, etc. Là. Puis cette impression surtout de devoir bien aller pour rassurer tout le monde, pour pas inquiéter le conjoint, pour pas inquiéter les enfants, les amis, ça c'est comme quelque chose qui appartient à la femme, hein, de prendre soin puis de pas inquiéter les autres. Puis donc après ça, après mon propre témoignage, ben il y a la voix de Sophie, comme vous avez dit. C'est un personnage de fiction, mais Sophie regroupe pas mal de femmes. T'sais. Alors, il y a elle, il y a son conjoint Alexandre, il y a son amie Marie-André, qui est intéressante aussi. Donc, la lectrice, dans cette histoire-là, elle peut se reconnaître quelque part. Puis Sophie, elle permet aussi de montrer ce qui se passe dans l'intimité, dans le couple, puis dans les silences.
Mm-hmm, c'est vrai, c'est vrai.
Puis, il y a une troisième voix, ben cette voix-là, ça s'adresse aux proches parce qu'on sait que on sait ce qu'on ressent, mais on trouve pas toujours les mots pour l'expliquer à nos proches. Et ça, c'est une partie pour leur expliquer, leur faire lire même ces parties-là si on peut pas leur dire dans nos mots. Là.
Tout à fait. Un ouvrage, en fait, important et unique, et surtout, comme vous l'avez dit, c'est de voir qu'est-ce que l'entourage peut faire. Parce que l'après-traitement, c'est sûr qu'on ne peut pas demander au système de santé de suivre tout le monde jusqu'au bout comme ça. Donc, l'après-traitement, qu'est-ce que les proches, la famille peut faire pour soutenir une femme là, durant cette étape-là?
Bien, je leur dirais aux proches, partez pas trop vite. Continuez d'être là, d'être présent. Tu sais, après les traitements, les fleurs, les messages, les encouragements, tout ça, ben, ça devient rare, là, tout ce qu'on avait. Bon, je pense à toi, bonne journée, tu sais, bon, je suis avec toi. Mais ça s'en va parce que les gens rentrent chacun dans leur vie, retournent à leur vie. Puis c'est à ce moment-là que la femme, elle commence à mesurer, tu sais, on commence à mesurer tout ce qu'on vient de traverser. Mmh. Je dirais aux proches, partez pas trop vite, puis croyez ce qu'elle vous dit, tu sais, les plus grandes séquelles, là, c'est les plus, ils sont pas visibles. Puis l'autre chose aussi, c'est peut-être faire attention à ce qu'on dit. Bon, ben, tu as l'air à bien aller, maintenant c'est terminé, tu vas pouvoir tourner la page. C'est sûr que ça part d'une bonne intention, tout ça, là, mais ça peut donner à la femme l'impression que, ben là, faudrait qu'elle aille mieux, elle n'a plus le droit d'être fatiguée, inquiète. C'est que il faut faire un petit peu attention à ça. Ben, tu sais, juste simplement dire, ben, comment tu vas aujourd'hui?
Eh oui, pourquoi pas.
Puis hein? Prendre le temps de l'écouter, d'écouter sa réponse. C'est important.
Faire preuve de sensibilité. Puis en fait, je trouve que c'est un message qui est tellement précieux dans ce livre-là. Et je pense que c'est un message aussi qu'on pourrait mettre ou on pourrait appliquer à plein d'autres situations comme ça. J'aimerais rappeler donc que l'après-cancer du sein, ce que personne ne dit après le rose, c'est disponible maintenant. On peut se procurer en librairie, c'est ça?
Oui, il va être en librairie bientôt, mais présentement, il est sur Amazon, puis il s'en vient en librairie, là, ce ne sera pas très long.
Bon, mais une lecture qu'en fait, moi, qui m'a beaucoup interpellée. Merci beaucoup, Diane Daniel, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Bonne journée.